Bonjour, chers auditeurs, vous écoutez l'émission La Bible en question. Au micro, Catherine Mann et Anne-Marie Arbitre. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Catherine, bonjour à tous, ravie d'être avec vous.
Et nous continuons donc notre réflexion à propos d'une lecture politique de la Bible, en nous appuyant sur le livre d'Armand Laferrère, dont le titre est « La liberté des hommes, lecture politique de la Bible », qui est paru en 2013 chez Odile Jacob. Nous avons parcouru déjà les premiers livres de la Bible et nous avons vu les 12 tribus d'Israël menées par Josué qui s'installaient sur leur nouvelle terre en Canaan après avoir traversé le désert du Sinaï sous la conduite de Moïse. Et lors de la précédente émission, nous avons découvert le premier fonctionnement politique dans ce pays. Un fonctionnement très peu centralisé, puisque chaque tribu avait gardé son autonomie. Mais les nécessités de l'époque, qui étaient, rappelons-le, assez violentes, faisaient qu'il y avait besoin d'une autorité capable d'unifier les tribus pour faire face aux guerres incessantes avec les peuples environnants, mais aussi pour régler les conflits internes. Entre tribus, ce n'était pas toujours la joie, et il fallait maintenir l'ordre public. Et ces fonctions étaient assignées à une personnalité charismatique qui se révélait selon les circonstances et on les appelait les juges, bien que la fonction débordait largement les problèmes juridiques.
Oui, le juge devait à la fois gouverner le peuple en fonction des problèmes du moment, bon, bien sûr quand même rendre la justice en cas de litige, mais il devait d'abord être un chef militaire capable d'assurer la victoire dans les guerres. Sans oublier que pour assurer toutes ses fonctions, il devait être en accord avec la volonté de Dieu, quand même, à l'origine. Il devait donc prier, entendre les instructions d'en haut, à la manière des prophètes, et parfois même se charger de certains rites religieux. On peut donc dire que le statut de juge était un peu flou, quand même. Il y avait énormément de choses, ce qui rendait d'autant plus nécessaire que ce soit là une personnalité qui s'impose par des qualités vraiment hors normes. Alors rappelons que la Bible considère que cette fonction n'est pas forcément masculine quand même, puisqu'il y a eu une femme nommée Déborah qui fut juge en Israël. Mais nous avons vu donc la dernière fois que malgré ses fortes personnalités, pleines de bonne volonté, mais commettant aussi parfois de grosses erreurs, le résultat de cette gestion politique au coup par coup, trop aléatoire, n'a pas donné de bons résultats. Et la conclusion du livre des juges était sans appel, puisque les derniers mots sont, je vous les lis, « En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui plaisait. »
Oui, mais ce qui peut être compris de deux façons. Soit le système politique très peu contraignant laissait à tout le monde une totale liberté, et c'est positif, soit au contraire, on peut comprendre que cette gestion décentralisé et très peu autoritaire, n'a produit que de l'anarchie et du chaos. Et même si, pour ma part, j'aurais aimé que ce régime libéral basé sur l'écoute de la parole prophétique d'un dirigeant très provisoire soit une réussite, les récits bibliques ont montré quand même que ce fut un échec. Pourquoi ? L'humanité pas mûre sans doute pour tant de liberté, les individus pas assez responsables, et de moralité souvent insuffisante. Bref, tout était fait pour qu'un désir nouveau germe dans le peuple hébreu, celui d'avoir enfin un vrai chef. Quelqu'un qui réussisse à faire l'unité entre les tribus, à maintenir l'ordre et la discipline avec autorité. Quelqu'un qui leur donne la sensation d'être une vraie nation, pleine de puissance et d'ambition, donc ils espèrent un roi. Et c'est là que nous laissons maintenant le livre des juges pour entrer dans le livre de Samuel. Samuel était considéré comme un prophète, mais le texte nous dit bien qu'en fait, il est encore juge.
Oui, c'est-à-dire que sa fonction est de représenter l'autorité divine en s'adaptant aux besoins du moment. Or, le début du premier livre de Samuel nous montre qu'il fut appelé par Dieu dès son enfance. Il est d'ailleurs né miraculeusement d'une mère stérile, ce qui dans la Bible montre une vocation toute particulière. Il est très tôt consacré au service de Dieu par le Naziréat, et il succède au grand prêtre Élie dans la direction religieuse du pays, à partir du sanctuaire de Silo, et ce qui en même temps lui confère une responsabilité politique. Alors les versets 20 à 21 du chapitre 3 nous disent ceci. Tout Israël de Dan à Beersheba sut que Samuel était accrédité comme prophète du Seigneur. Le Seigneur continua d'apparaître à Silo. Le Seigneur, en effet, se révélait à Samuel à Silo par la parole du Seigneur. Voilà, donc Samuel semble donc être à la fois prêtre, prophète, mais comme juge, il doit aussi faire face, donc, en tant que chef de guerre, à la guerre contre les Philistins, où Israël est d'abord vaincu, et où l'arche d'alliance est saisie et emmenée dans le temple du dieu philistin, Dagon. Ce qui signifie pour Israël, bien sûr, que la puissance de Dieu a disparu de chez eux. Alors, heureusement, Dieu combattra lui-même les Philistins et leur Dieu, bien sûr, et pris de terreur, ceux-ci renvoyèrent l'arche à Israël avec des offrandes de dédommagement. Alors, Samuel, là, n'interviendra que 20 ans après, dans un deuxième conflit avec les Philistins, où il présente au Seigneur un sacrifice qui permettra cette fois la victoire totale d'Israël.
Voilà, on voit donc les fonctions de Samuel toujours bien multiples. La fin du chapitre 7 nous montre, d'ailleurs je vous lis versets 15 à 17, « Samuel jugea Israël tous les jours de sa vie. Il partait chaque année faire le tour des villes de Bethel, Gilgal et Mispa. Et il jugeait Israël en tous ces lieux. Il rentrait ensuite à Rama, car c'est là qu'il avait sa maison. C'est là qu'il jugea Israël et là qu'il construisit un autel pour le Seigneur. » Voilà, donc il jugeait et assumait aussi une fonction religieuse et prophétique. Ainsi se passa sa vie, jusqu'au moment où, devenu vieux, il voulut transmettre le pouvoir à ses fils. Malheureusement, ces charismes ne semblent pas héréditaires, car comme nous dit le chapitre 8, verset 3, « Ses fils ne marchèrent pas sur ses traces, attirés par le gain, acceptant des cadeaux, ils firent dévier le droit. » Donc, les fils de Samuel sont des ripoux. Ce qui nous montre encore une fois une faille chez un juge pourtant reconnu et efficace, et qui discrédite définitivement ce type de pouvoir. Alors, le peuple d'Israël, mécontent, envoie une délégation pour se plaindre à Samuel. Donc, chapitre 8, verset 4 et suivant. « Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Te voilà devenu vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant donc, donne-nous un roi pour nous gouverner, comme toutes les nations. » Samuel fut mécontent parce qu'ils avaient dit « Donne-nous un roi pour nous gouverner. » Vous écoutez Radio Grand Ciel, l'émission La Bible en question sur le thème de la lecture politique de la Bible, et nous parlons maintenant du livre de Samuel. Nous en sommes au moment où le peuple d'Israël rejette la forme de gouvernement par des juges qui décidément ont toujours montré des faiblesses. La faiblesse de Samuel étant d'avoir raté l'éducation de ses fils, à qui il voulait pourtant transmettre le pouvoir après sa mort. Mais ils avaient été corrompus par l'argent. Les anciens d'Israël exigeaient donc une autre forme de gouvernement, ils demandèrent un roi. Ce qui déplut à Samuel, bien évidemment, et il se tourna vers Dieu. Je vous lis les versets 7 et suivants, donc dans le chapitre 8. « Le Seigneur dit à Samuel, écoute la voix du peuple en tout ce qu'ils te diront. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi qu'ils rejettent. Ils ne veulent pas que je règne sur eux, tout comme ils ont agi depuis le jour où je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, m'abandonnant pour servir d'autres dieux. Ainsi agissent-ils aussi envers toi. Maintenant donc, écoute leur voix, mais avertis-les solennellement et fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux.
Oui, et la description qui est faite alors de ce pouvoir royal est plutôt consternante. Hein. Je vous lis donc, on est toujours au chapitre 8, les versets 11 et suivants. Voici comment gouvernera le roi qui règnera sur vous. Il prendra vos fils pour les affecter à ses chars et ses chevaux. Et ils courront devant son char. Il les utilisera comme officiers de milliers, comme officiers de 50 hommes. Il les fera labourer et moissonner à son profit, fabriquer ses armes de guerre et les pièces de ses chars. Vos filles, il les prendra pour la préparation de ses parfums, pour sa cuisine et pour sa boulangerie. Les meilleurs de vos champs et de vos vignes et de vos olivriers, il les prendra pour les donner à ses serviteurs. Sur vos cultures et vos vignes, il prélèvera la vigne pour la donner à ses dignitaires et à ses serviteurs. Le meilleur de vos serviteurs, de vos servantes, de vos jeunes gens, ainsi que vos ânes, il les prendra et les fera travailler pour lui. Sur vos troupeaux, il prélèvera la dîme, et vous-même deviendrez ses esclaves. Ce jour-là, vous pousserez des cris à cause du roi que vous aurez choisi. En ce jour-là, le Seigneur ne vous répondra pas. Voilà. Quel tableau, hein, de la royauté. Il faut quand même nous rappeler que ces textes ont quand même été écrits en grande partie après l'échec total de la monarchie et l'exil de Babylone. Donc ils veulent nous montrer, je pense, que même cette forme de gouvernement tellement souhaitée ne sera finalement pas une solution parfaite.
Oui, mais donc le texte continue en disant que même prévenu par Samuel, le peuple hébreu a quand même persévéré, s'obstine dans la demande, et Samuel a dû leur céder. C'est ainsi qu'il se met à la recherche du premier roi, en suivant les indications de Dieu qui ne laisse quand même pas tomber le peuple. Il trouvera ce roi dans la personne de Saül, fils de Kish, dont la Bible nous dit que c'était un homme de valeur de la tribu de Benjamin, tribu qui, rappelons-nous, est la plus petite et la plus faible en Israël. Et de Saül, le chapitre 9, verset 2 nous dit qu'il était jeune et beau. Aucun fils d'Israël n'était plus beau que lui. Il dépassait tout le monde de plus d'une tête. Et voilà, bien que rien ne l'ait jamais préparé à cette fonction, Saül va recevoir l'onction royale, verset 1 du chapitre 10, qui dit « Alors Samuel prit la fiole d'huile et la répandit sur la tête de Saül. Puis il l'embrassa et lui dit « N'est-ce pas le Seigneur qui te donne l'onction ?» comme chef sur son héritage. Et dès lors, Saül, il doit immédiatement assumer son rôle de chef de guerre et affronter les Ammonites, tribu d'Ammon, donc il réussira à vaincre avec brio, avec éclat. Et la première conséquence de cette nouvelle autorité royale est que durant les premières années du règne de Saül, le nouveau royaume d'Israël va multiplier les victoires militaires et consolider sa position internationale, dirons-nous. Mais Samuel continue de s'inquiéter pour le destin du peuple hébreu, et au chapitre 12, verset 12, nous voyons qu'il leur rappelle « Vous m'avez dit, c'est un roi qui doit régner sur nous, alors que votre roi, c'est le Seigneur, votre Dieu. »
Oui, oui, là, Samuel insiste pour que Dieu reste la source de l'autorité en Israël. Je vous lis la suite, donc toujours chapitre 12, verset 14 et suivant. « Puissiez-vous craindre le Seigneur, le servir, écouter sa voix, sans vous révolter contre les ordres du Seigneur. Et vous-même, avec le roi qui règne sur vous, puissiez-vous suivre le Seigneur, votre Dieu. Mais si vous n'écoutez pas la voix du Seigneur, si vous vous révoltez contre les ordres du Seigneur, la main du Seigneur sera contre vous comme elle fut contre vos pères. » Voilà, mais bon, la suite du règne de Saül va prouver que Samuel avait des raisons de s'inquiéter. Car dès le chapitre 13, nous voyons ce qui nous est présenté comme le premier péché du roi Saül. Le prophète Samuel n'étant pas arrivé à temps au sanctuaire de Gilgal pour un sacrifice, Saül, impatient, prend sa place et commence à offrir lui-même l'holocauste, ce qui est, semble-t-il, totalement interdit. Et quand Samuel finit par arriver, celui-ci se met en colère contre Saül en lui disant, donc je vous lis les... On est au chapitre 13, verset 13. « Tu as agi comme un insensé. Tu n'as pas observé le commandement du Seigneur ton Dieu, ce qu'il t'avait ordonné. Autrement, le Seigneur aurait établi ta royauté sur Israël pour toujours. Mais maintenant, ta royauté ne tiendra pas. Voilà, c'est donc le premier constat de défaillance de ce tout nouveau roi.
Et voilà, mais c'est peut-être aussi l'indice d'une séparation plus claire entre les différentes fonctions du pouvoir. À Samuel, le pouvoir religieux, et au roi, uniquement le pouvoir militaire et temporel. En tout cas, on voit que chez Saül, comme on dit, le ver est dans la pomme, et ce ver va faire pourrir sa royauté. Et ce ver, c'est la désobéissance au Seigneur. C'est pourtant un homme courageux, on nous le décrit comme assez sincère, mais il va mener des guerres avec succès contre les Philistins, par exemple. Et une autre guerre contre les Amalécites va pourtant lui attirer de nouveaux reproches de la part de Samuel. Pour nous, c'est un épisode troublant hein, pour les lecteurs chrétiens, parce que on y trouve une injonction de Dieu assez choquante si on la prend au premier degré. Il faut arriver à la dépasser et entendre sur le plan symbolique. En effet, Dieu demande à Saül, impose, qu'au cours de cette guerre, toute la tribu d'Amalek soit complètement exterminée. C'est ce qu'on appelle vouée à l'anathème. Je vous lis donc chapitre 15, versets 5 et suivants. C'est Dieu qui parle. « Maintenant donc, va, tu frapperas Amalek, et vous devrez vouer à l'anathème tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras pas, tu mettras tout à mort. » L'homme comme la femme, l'enfant comme le nourrisson, le bœuf comme le mouton, le chameau comme l'âne. Voilà, c'est un texte qui montre un aspect de Dieu qui est difficile à digérer pour nous.
Oui, c'est dur, mais on doit faire l'effort de le relier à un épisode précédent hein, de la vie du peuple hébreu, qui est tiré donc du livre de l'Exode, au chapitre 17, versets 8 à 16. Quand les Amalécites vinrent combattre Moïse et les Hébreux au désert pour les empêcher de monter vers la terre promise. Nous devons comprendre que cette tribu s'est d'abord opposée à la volonté de Dieu, et c'est cette désobéissance à la volonté de Dieu qui doit être exterminée. Or, Saül va tricher avec cette injonction de Dieu, puisqu'il va épargner le roi des Amalécites. Entre rois, on se respecte. Mais en plus, il va se réserver, on nous dit au verset 9, le meilleur du petit et du gros bétail, les bêtes grasses, les agneaux et tout ce qu'il y avait de bon. Voilà, dès lors, la réaction de Dieu va se faire radicale. Toujours donc chapitre 15, verset 19 et suivant. Pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix du Seigneur? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Pourquoi as-tu fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur? Et un peu plus loin, oui. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, la docilité, vaut mieux que la graisse des béliers, la révolte est un péché, la rébellion est une faute. Parce que tu as rejeté la parole du Seigneur, lui aussi t'a rejeté, tu ne seras plus roi. Et voilà, ainsi la royauté de Saül va progressivement se dégrader, puis être anéantie. Et Dieu, toujours par l'intermédiaire de Samuel, va se choisir un nouveau roi. Et ce sera David. Mais là, sa royauté va s'imposer graduellement.
Vous écoutez l'émission La Bible en question, et nous sommes en train de lire dans la Bible le premier livre de Samuel, l'instauration de la royauté en Israël. Le premier roi, Saül, vient d'être désavoué par Dieu à cause de sa désobéissance, et il sera donc progressivement remplacé par David. David, un jeune berger, le plus jeune fils de Jessé, de la tribu de Juda, du petit village de Bethléem. L'entrée en scène de David commence par ce qu'on appellerait aujourd'hui un petit boulot auprès du roi Saül, qui est tombé malade après son licenciement pour faute grave. Le texte nous dit qu'il était régulièrement tourmenté par l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, on dirait peut-être dépression nerveuse, je ne sais pas. Et David, qui est aussi musicien, rappelons-nous que c'est lui à qui nous devons les psaumes, donc il est d'abord célèbre pour ça, il est appelé auprès de Saül, encore un terme d'aujourd'hui, comme musicothérapeute. Je vous lis le verset 23 du chapitre 16. « Ainsi, lorsque l'Esprit de Dieu venait sur Saül, David prenait la cithare et en jouait. Alors Saül se calmait et se trouvait bien. L'esprit mauvais s'écartait de lui. » Voilà, donc un bon musicothérapeute.
Apparemment.
Et David entre dans la fonction royale par cette petite porte. Il se fera d'abord apprécier de Saül comme guérisseur, puis aussi par ses glorieux exploits militaires, comme celui qui est le plus connu, le combat contre le géant Goliath. Il va aussi faire ses preuves comme chef de guerre, et le chapitre 18, verset 5, nous dit à quel point il réussit à se faire aimer. Et d'ailleurs, c'est le nom David, ça signifie en hébreu « bien-aimé ». Apprécié donc par tout le peuple, mais aussi par les serviteurs du roi, et surtout par Jonathan, le fils de Saül, ainsi que par Michal, une fille de Saül, qu'il va épouser.
Eh oui, mais à partir de là, Saül va commencer à beaucoup moins l'apprécier, car il, bien sûr, il va devenir jaloux des succès de David. Et cela va tellement le ronger qu'il va passer son temps à essayer de le détruire. Tous les moyens lui seront bons pour tendre des pièges à celui dont il devine déjà les qualités royales qui vont le porter au pouvoir à sa place. Mais David a tissé des liens partout et il reçoit de l'aide de tous les côtés. Il continue de marcher à la tête de l'armée d'Israël et à remporter succès sur succès. Saül va jusqu'à prendre lui-même les armes pour combattre et chasser David, mais c'est l'occasion pour celui-ci de montrer quelques qualités supplémentaires. Son respect de l'onction royale reçue par Saül et sa bonté peut-être envers celui qui pourtant le persécute. Il y a un épisode étonnant qui va nous montrer cette particularité, ce caractère de David. Chapitre 24, versets 3 et suivants. Saül prit 3000 hommes choisis dans tout Israël et partit à la recherche de David et de ses gens en face du rocher des Bouquetins. Il arriva au parc des moutons qui sont en bordure de la route, il y a là une grotte où Saül entra pour se soulager. Or, David et ses hommes se trouvaient au fond de la grotte. Les hommes de David lui dirent « Voici le jour dont le Seigneur t'a dit, je livrerai ton ennemi entre tes mains et tu en feras ce que tu voudras. » David vint couper furtivement le pan du menton de Saül, et un peu plus loin il est dit « Il dit à ses hommes que le Seigneur me préserve de faire une chose pareille à mon maître qui a reçu l'onction du Seigneur. Portez la main sur le Messie du Seigneur. » Par ces paroles, David retint ses hommes.
Voilà, c'est bonté d'âme dans une condition un peu triviale. On voit rarement dans la Bible des gens aller se soulager dans un petit coin. Mais David ne va pas garder cette bonté d'âme secrète. Il a envie que Saül comprenne qu'il vient d'échapper à la mort et que là encore, David est meilleur que lui. Il va donc à la rencontre de Saül et lui dit, verset 12 et suivant, « Regarde, père, regarde donc, voici dans ma main le pan de ton manteau. Puisque j'ai pu le couper et que pourtant je ne t'ai pas tué, reconnais qu'il n'y a en moi ni méchanceté ni révolte. Je n'ai pas commis de faute contre toi, alors que toi, tu traques ma vie pour me l'enlever. C'est le Seigneur qui sera juge entre toi et moi. C'est le Seigneur qui me vengera de toi, mais ma main ne te touchera pas. » Voilà, belle démonstration de générosité qui va avoir raison de Saül qui s'effondre en pleurant. Et il renonce à poursuivre David. Oui, plus ou moins. C'est une belle histoire, en tout cas, de tactique psychologique.
Politique.
Dans la politique, oui. Un vrai chef-d'œuvre de non-violence dans un contexte de folie meurtrière. On pourrait en conclure que, décidément, David avait toutes les qualités. Musicien, poète, chef militaire courageux, fin stratège, plein de gentillesse, fidèle en amitié et, en plus, respectueux de Saül, de son onction royale et magnanime envers son ennemi. Voilà. Si on s'en tient à cette description de toutes les qualités de David, on comprend pourquoi Jésus lui-même a perpétué le nom de ce remarquable aïeul, puisqu'il accepte le titre de fils de David.
Voilà, mais la réalité est quand même un peu différente. Il en reste bien un homme. Et n'oublions pas que dans la Bible, aucun dirigeant politique n'est montré exempt de défauts. Donc pas plus le roi David que les autres. C'est d'ailleurs, je pense, plutôt pour ses défauts que l'on connaît habituellement l'histoire de David. Il est surtout resté célèbre, bien sûr, pour son amour immodéré des femmes. Il eut au moins 4 épouses régulières, en plus Dieu sait combien de concubines, ce qui ne l'a pas empêché de faire tuer le pauvre Uri le Hittite pour prendre sa femme Bethsabée. Là, ce fut un péché suffisamment grave quand même pour que Dieu lui envoie le prophète Nathan pour le désavouer. Mais là encore, David va réussir à faire oublier ses défauts. Il va montrer un tel repentir, va faire pénitence avec tellement de sincérité, que finalement on ne pourra pas lui en vouloir. Alors, le fils né de cette union scandaleuse avec Bethsabée devra pourtant mourir, mais il sera remplacé par un deuxième fils, légitime cette fois, mais celui qui deviendra bien sûr le grand roi Salomon. Donc, même quand il commet des péchés, David reste roi, parce qu'il sait se faire pardonner. Jusqu'à sa mort, il restera le bien-aimé de Dieu. Pas comme Saül, dont on voit au chapitre 28 qu'il va ajouter un ultime et catastrophique péché qu'il paiera cette fois de sa vie. Cela se passe juste après la mort du prophète Samuel. Saül veut entreprendre un combat contre les Philistins, mais comme Dieu ne l'éclaire plus pour prendre ses décisions, Saül va interroger une nécromancienne pour consulter l'âme du défunt Samuel.
Oui, vraiment, la consultation des morts en Israël est considéré comme un des plus grands péchés. Voir Lévitique 19, verset 31. Pour Saül, c'est donc la bêtise de trop qui va lui valoir une condamnation à mourir dans le combat contre les Philistins ainsi que ses fils. C'en est fini de Saül. Et enfin, David va pouvoir devenir vraiment roi. L'histoire de cette royauté va nous être racontée tout au long du deuxième livre de Samuel. Mais nous n'en dirons pas grand-chose, parce que c'est une histoire somme toute assez banale pour un roi. Elle est faite d'interminables guerres, de récits de nombreuses paternités, grâce à ses multiples épouses, du coup des conflits familiaux, des histoires de jalousie entre frères, de rivalité entre fils et pères, pour l'héritage, et l'immense prestige quand même que ce roi eut auprès du peuple d'Israël. Et comme nous le voyons dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 5, verset 10, qui dit « David devint de plus en plus puissant. Le Seigneur, Dieu des armées, était avec lui. » Mais ce qui restera de particulièrement remarquable du règne de David, c'est le choix de Jérusalem comme capitale du royaume, là où il va se faire construire un grand palais, mais où il projette aussi de faire bâtir un magnifique temple pour le Seigneur Dieu d'Israël. Mais si David en conçoit déjà les plans, c'est son fils Salomon qui se chargera de la construction. Et cette histoire-là nous sera racontée dans le livre des rois. C'est donc ce que nous verrons lors de notre prochaine émission. Et maintenant, nous vous disons au revoir, chers auditeurs, et à très bientôt.
Au revoir Catherine, au revoir à tous.